enfants jusqu'à quel âge ?
10 ans et en dessous.
En dessous, 10 ans et en dessous, montez avec Madame Barnes, elle va vous occuper avec une leçon là-haut. Voilà, donc les enfants, vous accompagnez Madame Barnes. Voilà, sinon, c'est intéressant le sujet de ce matin parce que cette semaine, j'étais dans une conférence missionnaire et le thème de la conférence, ou des conférences, le thème c'était « Seul, mais jamais tout seul ». Il arrive souvent qu'on se retrouve seul, mais en fait on n'est jamais tout seul parce que le Seigneur est toujours là, toujours près de nous et il nous accompagne. Le thème de ce matin, le sujet en tous les cas, j'ai formulé de cette manière. Les croyants athées et les athées croyants. Alors je vous laisse méditer un petit peu. Comment traduire ça en anglais ? C'est plus difficile. Believing atheists and atheists who believe. Les athées, les croyants athées et les athées croyants. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, Matthew chapter 21, Matthieu 21. Dans ce passage, dans cette parabole, Jésus va identifier deux catégories de personnes. Un peu pour illustrer l'état des choses à son époque, en Israël. Et vous allez remarquer que dans ce passage, verset 28, le passage commence avec une question. Que vous en semble ? Donc il pose une question et il s'attend à une réponse. Que vous en semble ? Si on peut se demander qui sont ses interlocuteurs, à qui est-ce qu'il parle, qui sont ces personnes devant lui, eh bien nous pouvons regarder au verset 23, donc de Matthieu chapitre 21, verset 23, où il dit que Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Donc, les gens à qui il parle, ce sont les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, c'est-à-dire les gens respectés, respectables de la société. Et il pose la question et il s'attendra à une réponse et leur réponse va les condamner, comme Jésus a déjà fait par d'autres occasions. Donc, premièrement, la première catégorie de personnes dans cette parabole. Je vais lire la parabole. Maintenant, je n'entends plus tourner les feuilles. Donc, je vois que vous êtes là. Alors, on va lire ensemble. Vous suivez à partir du verset 28. Matthieu 21, verset 28. Matthieu 21, verse 28. Que vous en semble ? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Alors Jésus leur dit, écoutez, Jean est venu, il a prêché. Au début, vous avez dit, non, on ne veut pas. Donc sont venus les autres. Et ils se sont repentis. Et quand vous avez vu ces gens se repentir, vous ne vous êtes pas repentis. Donc, vous êtes doublement fautif. Alors, il parle de ces deux catégories de personnes. Alors, pour un peu illustrer la situation, il donne cette parabole. Donc la première partie de la parabole, cette première catégorie, eh bien, se trouve dans cette partie-là, le verset 28, dit « Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il, le fils, répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Vous avez remarqué que quand le père s'adresse à lui et lui demande d'aller travailler dans sa vigne, sa réponse est directe. Je ne veux pas. On pourrait se poser la question, on dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ? Est-ce qu'il avait prévu autre chose ? Et où est-ce qu'il veut faire ce qu'il veut ? Il dit, non, on ne va pas me donner des ordres, je fais ce que je veux. Vous avez déjà entendu ça. Peut-être est-il paresseux, il n'aime pas travailler. Il a peur de se faire mal ou de se salir. Hein. Ça arrive aussi. Peut-être est-ce qu'il a un problème avec son père. Peut-être qu'il y a quelque chose entre lui et son père. Et donc, vous savez, quand on est, il n'y a pas, cette relation ou cette communion, eh bien, ça coupe l'envie de faire des choses ensemble. Peut-être il a ce sentiment que c'est toujours lui qui doit travailler. Ouais, bah, mais c'est toujours moi. Hein. Vous avez déjà vu vos enfants hein, vous dites, bah, c'est toujours, tu me demandes toujours à moi de faire le travail. Pourquoi pas le petit hein. Peut-être c'est comme ça. Peut-être et on peut trouver des gens dans l'église qui disent, mais c'est moi qui fais tout le travail et les autres, ils font rien. Ils arrivent à la dernière minute, ils s'assoient tranquillement, tout est en place. Et puis après, ils s'en vont et c'est toujours moi qui travaille. On peut penser ça aussi. Peut-être est-ce qu'il croit qu'il est exploité par son père. Il dit, moi, toujours jusqu'à là, j'ai toujours fait pour mon père, mais il n'a rien fait pour moi. Et il se peut aussi, hein, que, et ça arrive, c'est des pensées qui arrivent chez le chrétien, mais il a, oui, mais bon, moi, bien sûr, ça fait 20 ans que je viens à l'église, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et puis quand j'avais besoin de lui, eh ben, il n'était pas là, il n'a rien fait. Donc moi, c'est terminé, je ne fais plus rien. Vous savez, c'est des réactions qui sont là, c'est des réactions humaines, c'est des réactions qui arrivent, même dans l'église. Et Jésus est en train... Mais vous savez, ici, il ne donne pas de raison pourquoi le fils ne veut pas y aller. Il ne nous dit pas pourquoi il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne change rien. Pourquoi il ne veut pas y aller ? On peut avoir... Vous savez, on peut avoir toutes sortes de raisons pourquoi. Et Dieu dit, mais... Et alors ? Et alors ? Tu n'as pas envie, tu es fatigué, c'est toujours moi. Et alors ? S'il y a un travail à faire, il y a un travail à faire. Demandez aux mamans hein, qui ont des petits-enfants là. Et je suis sûr qu'il y a des matins qui ont moins envie de faire des choses que d'autres matins. Et alors ? On fait ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a des responsabilités. Et vous savez, en plus, peut-être que ce garçon avait un problème avec son père, peut-être que son père n'était pas toujours juste, peut-être son père il faisait travailler trop, peut-être qu'il y avait quelque chose. Et très certainement, parce que vous savez, quand on aime quelqu'un, en général, on a envie de travailler avec, faire des choses avec. Donc certainement qu'il y avait un problème. Mais peu importe. Nous avons affaire avec un Père céleste qui nous aime et qui n'abuse jamais de ses enfants et qui cherche toujours le bien de ses enfants. Donc même si ce jeune homme avait un problème avec son père, mais nous, dans notre cas avec Dieu, le problème n'est pas du côté du père. Le Père céleste, il a déjà démontré le fait qu'il cherche notre bien, qu'il nous aime. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis après il dit, je m'en vais. Et c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Je ne vais pas pour moi, je vais pour vous. Parce que quand je vais partir, je vous envoyerai le Consolateur, l'Esprit Saint qui sera avec vous. Et peu importe si vous êtes en Galilée, si vous êtes en Judée, si vous êtes en Europe ou ailleurs, je suis avec vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et puis moi, je vais m'installer à la droite du Père et j'intercède pour vous. Je lui parle de vous, je vais comprendre parce que j'ai été homme. J'ai vécu sur terre, je comprends vos problèmes. Je vais être là dans sa présence et je vais parler pour vous. Je serai votre avocat. Et puis en plus, il ajoute, et je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Je reviendrai vous prendre. Et je vous rendrai, même je ferai les transformations nécessaires de votre corps pour qu'il soit glorifié, afin de pouvoir exister dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui veulent aller au ciel sans avoir de transformation. Vous savez, vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain, parce que vous êtes aérien, vous n'êtes pas en mesure de vivre sous l'eau. Encore moins de vivre dans le ciel, c'est autre chose là-bas. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, c'est ni l'un ni l'autre. Vous allez vivre comment s'il n'y a pas de transformation, de régénération, s'il n'y a pas un nouveau corps qui est donné? Toutes les religions du monde vous proposent des moyens d'y arriver, mais ne vous équipent pas pour y aller. Supposons que vous réussissiez à arriver, il n'y a pas moyen d'exister. On n'arrive même pas à vivre sur la lune sans du matériel, encore moins dans la présence de Dieu, devant Dieu saint. Moi, il me faut un moyen qui me purifie de mes péchés d'abord, afin de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et il me faut un moyen d'être transformé. Ce corps, il est terrestre, mais un jour nous aurons le corps céleste, nous dit 1 Corinthiens 3,15. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui cherche notre bien. Alors pourquoi lui dirait-on « je ne veux pas » ? Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui est de ce premier fils, c'est qu'il a d'abord dit « je ne veux pas » et pendant un temps, il n'a pas voulu, il a résisté, il a dit « non, je ne vais pas ». Mais il nous dit qu'il se repentit, c'est-à-dire qu'il a changé de pensée et qu'il est allé. Et s'il est allé, c'est pas parce que le travail, c'est tout d'un coup, il s'est rendu, ah, aujourd'hui, le travail, il est léger, je vais y aller. C'est pas parce qu'il a trouvé que ses copains seraient là-bas, ou quelque chose de ce genre, ou qu'il était, c'était un travail qui était facilement réalisable, ou qu'il aurait fini en 2 heures, et puis après, il est libre. C'est pas pour ça qu'il est retourné. Il nous dit qu'il s'est repenti, c'est-à-dire qu'il il s'est rendu compte qu'il avait mal agi, qu'il s'était mal comporté. Vous savez, si nous sommes obéissants au Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a des sentiments qui se portent vers l'obéissance, mais notre obéissance est basée sur la relation. Là, c'est une relation père-fils. C'est parce que c'est une relation que nous sommes obéissants. Pas parce que Dieu nous promet des choses et puis nous dit « ouais, après je te bénirai, tu aurais ceci ». C'est pas pour les bénédictions ni rien du tout, c'est à cause de la relation. Et c'est à nous de nous rendre compte que ce qui importe dans nos vies, c'est pas ce que Dieu nous promet. Vous savez qu'il y a des gens qui disent « ouais, moi, ça y est, je prie plus à Dieu parce que je prie, il me donne rien du tout ». C'est pour ça que tu pries ? Pour qu'il te donne quelque chose, c'est pas pour ça qu'on prie. On prie, c'est pour parler à notre Père. On ne prie pas pour ce qu'on peut obtenir. On prie, c'est pour entretenir la relation. Vous croyez qu'il y a certains pays dans le monde où le Père est tellement dépourvu de moyens qu'il n'a rien à donner à son fils. Il ne lui donne jamais rien parce que lui-même... à peine s'il a de quoi manger chaque jour. Alors, est-ce que le fils doit dire, ben, « Écoute, papa, toi, tu ne m'as jamais rien donné, moi, je m'en vais. » Non, non, il y a toujours la relation. Et on continue. Et peu importe, mais Dieu nous a déjà donné, s'il ne donnait plus rien, sinon le pardon de nos péchés et l'accès au ciel, eh bien, il y a de quoi être reconnaissant toute la vie. Même s'il ne me donne plus rien, je devrais continuer à dire merci et jusqu'en dans l'éternité. parce que c'est tout. Donc le fils ne s'est pas repenti à cause de la nature de la tâche, mais il a changé de comportement à cause de la réalisation que la désobéissance était mal vue du père. Et il est allé travailler dans la vigne et il a placé sa relation au-dessus de ses désirs, de ses envies. Il a donné plus d'importance à la relation qu'à ses désirs. Et c'est là où se trouve la question. Est-ce que je suis plus attaché à ce que je veux ou est-ce que je suis attaché au Père Céleste? Et c'est là que ça se décide. C'est pas combien il me donne, c'est combien je l'aime. Et la repentance a permis un changement de cœur qui a entraîné un autre comportement. Parce qu'il est revenu un peu plus tard, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il y a quelque chose, pour le fils prodigue, ça lui a pris quand même quelques années avant qu'il revienne. Il fallait qu'il soit à sec pour commencer à réfléchir, dit, mais après tout, mon père. Et puis il est revenu. Celui-ci, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais quelque part, il a dit, « Papa, qu'est-ce que c'était que tu voulais que je fasse dans le champ, dans la vigne ? Je vais y aller. » C'est quand il a commencé à donner plus d'importance à sa relation avec son père que ce qu'il avait prévu pour la journée. La seconde catégorie de personnes, eh bien, on la trouve au verset 30, à partir du verset 30, elle est représentée par ces paroles. Le père, s'adressant à l'autre, donc au deuxième fils, il dit la même chose, c'est-à-dire, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il lui dit la même chose. Et le fils a répondu, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Il répond, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Il dit, je veux bien aller. Et même il emploie des termes de respect, il dit à son père, Seigneur. Et on dit, wow, ça c'est un beau fils, un fils vraiment qui se comporte correctement. Là. Il respecte son père, il parle poliment, il dit oui tout de suite, ah, ça c'est un bon garçon. Mais le résultat, c'est qu'il y a toutes ces belles paroles, mais il ne fait rien. Il n'y va pas. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé ? Après avoir dit « je veux bien », et après, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé ? Et est-ce qu'il a dit « je veux bien », rien que pour faire plaisir à son père ? Et puis une fois que le père n'était plus là, ben... Ça arrive aussi, des gens qui parlent comme ça, à Dieu. Ils arrivent dans l'église, ils font des belles prières, des belles choses, ils disent toutes sortes de belles choses, et puis une fois qu'ils sont passés par la porte, il n'est plus là. Comme si Dieu n'était pas omniprésent, mais il était seulement présent à l'église et quand les chrétiens se réunissent. Ou bien est-ce qu'il est distrait ? Il dit « je veux bien », mais à peine il commence à y aller, il rencontre quelqu'un, puis la personne commence à lui parler, puis il dit « viens avec moi, on va aller à la pêche », et puis alors il part, et puis il n'y a rien du tout. Ça peut arriver aussi. Il est facilement distrait. Et ça arrive aussi, il y a des chrétiens là, il met un moment de prière, et puis même de jeûne, et puis il a passé la journée à prier, il dit « Seigneur, je veux te servir ». Et puis il sort, et puis après il rencontre quelqu'un, il dit « écoute, viens avec moi ». Et puis facilement il a oublié tout ce qu'il avait promis. Ça arrive. Des gens qui, au moment de leur baptême, ils ont promis des belles choses. Et après le baptême, après quelques mois, quelques 2-3 ans peut-être, et bien tous ils ont commencé à être distraits parce qu'ils ont eu un emploi, puis après il y a eu du travail, et puis après il y a ceci, puis c'est parti, c'est oublié. Ou est-ce qu'il a dit « je veux bien » parce qu'il avait peur? Il dit « oui, j'y vais ». Mais vous savez, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Ils ont, je ne sais pas où, Et bon, il y a certaines religions qui cultivent la peur de Dieu et la crainte de Allah et des choses comme ça. Et alors, devant Dieu, oui. Puis après, ils partent. Mais notre Père, nous n'avons pas à avoir peur de notre Père. Notre Père, quand on voit le comportement de Jésus, même avec les pécheurs, même avec la femme dite pécheresse, à la femme samaritaine, quand on voit comment il a parlé avec eux, c'est pour nous dire, mais c'est comme ça que le Père Céleste vous reçoit. Vous n'avez pas à avoir peur. Il vous reçoit et il vous aide. Et quand vous le repartez, vous partez autrement. Transformé. Mais comme j'ai dit pour le premier fils, je dis encore pour le second, le Saint-Esprit n'a pas trouvé utile de nous dire pour quelle raison. Le père, le fils a dit « je veux bien » et puis il ne l'a pas fait. Parce que, encore une fois, peu importe. Ça ne change rien. Peu importe les raisons qu'il peut avoir, ça ne change pas. Il est responsable pour ce qu'il a fait. Le problème là, c'est que l'engagement n'est pas tenu. Il dit « oui, je veux bien » et puis finalement, il n'y va pas. Alors, Jésus, au début du verset 28, Jésus a posé le début de la question. Il dit « que vous ensemble, qu'est-ce que vous pensez ?» Et puis ensuite, au verset 31, c'est la suite de la question, il dit « lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il y en a un qui a dit « non, je ne vais pas », et puis ensuite il est allé. Et il y en a un, l'autre qui dit « ouais, je veux bien », puis il n'est pas allé. Il dit « lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Et ces hommes, ces grands théologiens, ces anciens, ces gens qui ont d'expérience dans la vie, tout ça, ben, ils n'ont pas réfléchi longtemps, ils ont dit « bah le premier ». Le premier. C'est... Il n'y a pas besoin d'être très spirituel pour comprendre ça. Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a promis, et puis ce n'est pas l'attitude qu'on avait quand on était là en prière, tout ça, ce n'est pas ça. Quand on était en présence du Seigneur, c'est pas ça. C'est pas, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a dit là. Ce qui importe, c'est ce qui est arrivé après. Et dans notre vie de tous les jours, c'est ça aussi. Ce n'est pas ce que j'ai promis dans ma prière. Ce n'est pas ce que j'ai promis au moment où j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. Ce n'est pas ce que j'ai promis au moment de mon baptême. Ce n'est pas ce que j'ai promis. C'est ce que j'ai fait qui importe. C'est sur cette base-là que les deux fils ont été jugés. L'un est allé, l'autre n'est pas allé. C'est tout. Ce n'est pas ce qu'il a dit avant. Pourquoi il l'a dit. On ne passe pas de temps là-dessus. Pas la peine de discuter. Est-ce que tu es allé ou tu n'es pas allé? Et c'est tout simplement. Est-ce que tu as obéi au Père? Il t'a demandé gentiment, et puis il nous a pas dit que le fils qui a dit « moi je ne veux pas », il ne l'a pas mis en prison, on n'a rien du tout, il l'a laissé. Bon, bah, tu ne veux pas. C'est vraiment volontaire. Notre Père Céleste, c'est un Dieu qui veut un service volontaire. On peut désobéir, un chrétien peut aller vivre comme pire que le monde, et il peut avoir une bonne santé. Ça ne change rien. Parce que Dieu dit, si je veux un service volontaire. Je veux que tu viennes parce que tu veux. Si tu ne veux pas, voilà. En Judée, en Galilée, à l'époque de Christ, eh bien, il y avait ces deux catégories de personnes. La première, eh bien, c'était justement les publicains, donc les collecteurs d'impôts, qui avaient cette réputation de voler un petit peu et de tromper, de mentir et de manipuler les choses, les chiffres. Et puis il y avait les prostituées. Et Jésus dit, ça c'est la première catégorie. C'est eux qui tombent dans cette catégorie de ceux qui ont dit « je veux pas », ils ont décidé de vivre une autre vie. Hein, moi, le temple c'est rempli d'hypocrites, et puis si je rentre dedans, il n'y en aura un de plus. Et c'est pas pour ça. Eux, ils ont dit, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais faire ma vie, je vais m'amuser, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais vivre autrement. Et puis finalement, Jean-Baptiste est venu, il a prêché, Christ est venu et beaucoup se sont repentis. Se sont repentis du choix qu'ils avaient fait et ils ont commencé à suivre. Il y en a un qui est très bien connu, c'est l'apôtre Matthieu. Et puis, parmi les femmes qui ont suivi Jésus, il y avait certaines qui avaient été parmi ces gens-là. Ils sont appelés, par ailleurs, ils sont appelés les gens de mauvaise vie. C'est pas comme ça que Jésus les a appelés. Lui, Jésus les appelle les personnes pour qui il est mort. Mais les gens du monde, ça c'est autre chose, et donc voilà. Et la seconde catégorie, eh bien justement, elle est représentée par ces gens à qui Jésus parlait, les prêtres, les anciens, les scribes, tous ces gens-là qui extérieurement et avaient tout ce qu'il y avait de religieux, mais à l'intérieur, Jésus a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est bien blanc, dedans, c'est de la décomposition. Vous savez, du temps de... C'est comme vous vous êtes rendu compte que ces deux catégories existent aujourd'hui dans l'Église. Hein. Je prends l'Église au sens général, et qui peut être même dans l'Église locale. Ceux qui ont pendant un temps vécu sans Dieu, mais qui un jour se sont repentis de leur comportement vis-à-vis de Dieu, peu importe les raisons, et qui se sont repentis, ont décidé de servir là où le Père désirait être servi. Ils l'ont souhaité et ils l'ont servi comme ils le souhaitaient. Cette première catégorie, ce sont ces gens-là qui, pendant un temps, et c'est pour ça que je les ai appelés des athées, non pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ces deux garçons, ils connaissaient leur père. Ils lui ont parlé, ils savaient qu'il existe. Mais les athées, pratiquement parlant, ce sont ceux qui se comportent comme si Dieu n'existait pas. Vous savez, 99% des gens dans le monde croient que Dieu existe. Mais peut-être 98% se comportent comme s'il n'existe pas. Ils préfèrent croire qu'il n'existe pas. Ils font comme s'il n'existe pas. Jusqu'au moment où ils se trouvent là, tout d'un coup, ils se rendent compte, il y a le cancer, le médecin lui dit, il ne reste que 3 mois. C'est là, tout d'un coup, il commence à dire, on lui dit, tu veux que je prie pour toi? Oui, ça ne fera pas de mal. Ben, si tu es vraiment athée, tu lui dis, non, ne perds pas ton temps, laisse-moi. Mais tout d'un coup, on commence à trouver un peu de foi. Vous savez, il y a les athées qui deviennent croyants. Ils ont commencé, en général, on est athée parce qu'on choisit de l'être. On ne naît pas athée. Vous prenez n'importe quel enfant, vous commencez à lui parler de Dieu, il répond. Il est porté vers cela. Donc, si il arrive un moment où il dit, moi, c'est terminé, c'est parce qu'il y a un moment où il a fait ce choix. Pour des raisons pratiques, pour des raisons, il a été déçu, pour peu importe les raisons. Mais il décide, dis-moi, moi, à partir de maintenant, je suis athée. Et je dirai à tout le monde que je suis athée, moi, ne me parlez pas de Dieu, je n'ai pas le temps. Je vais m'amuser, et puis on verra. Et quand je serai là-bas, ben, je verrai comment je fais. Bon, c'est le genre de parole qui est facile à dire quand on se porte bien et tout, on s'amuse bien. Mais certains plus que d'autres, ben, il y a un moment, ils se sont rendus compte, ils ont dit, oui, mais... je crois que ce n'est pas juste. Je fais semblant, j'ai vécu pendant un temps comme si Dieu n'existait pas, mais je crois qu'il existe, et puis en fait, je voudrais le suivre. Et il y a une repentance. Et quand il y a cette repentance, eh bien, il y a un changement de vie. Il y a un changement de mode de vie. Je vis autrement, je vois les choses autrement. J'ai une autre vue globale du monde. C'est les anciens athées qui deviennent croyants. Et parce que, et peu importe les raisons, mais maintenant, il donne de l'importance à ce que le Père Céleste dit. Et notre Père Céleste, il veut être le Père de chacun d'entre nous. S'il ne l'est pas, s'il n'est que le Dieu qui m'a créé, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu au loin, il est le Dieu... certains l'appellent Mère Nature, d'autres veulent l'appeler l'intelligence suprême, et puis on trouve toutes sortes de mots qu'on emploie, peu importe comment on l'emploie, mais il y a un moment où je me dis, non, il est personnel. Et moi, je suis une personne, donc il faut que je réponde à lui et que je réponde de ma manière favorable. Je me repens de ce que j'ai fait. Et puis lui, il me pardonne tout. Il m'a déjà tout pardonné, finalement. J'arrive à lui, je dis, Père, pardonne-moi mes péchés. Pardonne. Il dit, écoute, lève-toi, c'est déjà tout pardonné, c'est réglé sur la croix. Ah bon? Ben oui, oui, oui. T'es sûr? Oui, 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 oui. Non, non, tout est pardonné. Je te reçois. Je dis, oh. Écoute, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? C'est ça que l'apôtre Paul a fait hein, sur le chemin de Damas, ce Saul de Tarse là. Ah, et sa tête, il pensait carrément à autre chose. Et puis, son idée de Dieu, c'était carrément autre chose. Tout en se réclamant de Dieu. Et puis tout d'un coup, le Seigneur l'a parlé, dit, tu vas où là comme ça? Il dit, mais t'es qui toi? Il dit, ben je suis celui que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous savez, c'est là où on est confronté à la personne de Dieu, quand on se rend compte que c'est réellement une personne. Et quand on est face à face avec lui, la réaction, c'est une réaction de personne à personne. Que veux-tu que je fasse? Dans quelle partie de ta vie veux-tu que je travaille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peu importe, il dit, peu importe ce que tu as fait avant, je ne cherche pas à savoir. Il y a pire que n'importe qui ici, qui sont venus à Dieu, et Dieu a tout pardonné. Et puis après, il y a les autres, il y a d'autres qui arrivent dans l'église, Seigneur, oui, Seigneur, oh Seigneur, 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 et puis en avant des belles choses, et des belles choses. Et puis, ensuite, ils s'en vont et vivent comme des athées, comme des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est extraordinaire quand même. Hein? Ça, c'est les croyants athées. C'est les gens qui, pratiquement, pour ce qui est de leur vie, ils vivent comme des athées. On ne voit pas la différence. La seule chose, c'est que le dimanche matin, ils sont à l'église. Mais sinon, le reste, ça ressemble à tout le monde. Et parfois, c'est pire que les autres. Moi, je connais personnellement des gens qui se disent athées, avec qui je préfère être qu'avec certains chrétiens. Je connais même des musulmans avec qui j'ai plus confiance que certains qui se disent chrétiens. Vous savez, c'est pas les mots, c'est la vie qui fait la différence. Vous savez, il y avait un temps en France où on avait le droit de porter une croix comme ça, visible, pour dire à tout le monde qu'on était chrétien. Maintenant, c'est interdit. Il ne faut pas que ça soit visible, en tous les cas. Il faut la cacher, tout ça. Bon, après, bon, il y en a d'autres, hein, d'autres religions qui arrivent à faire autrement. Hein, ils ne portent pas quelque chose, mais bon, ils s'habillent autrement. On met un voile, on porte une barbe, on fait des choses. Il y avait une époque où les membres du clergé de l'Église catholique, ben, il y avait les bonnes sœurs, on savait qui était la bonne sœur. On savait quand on rencontrait le curé du village, il s'habillait de telle manière. Mais bon, maintenant ça ne se fait plus. Alors, on fait comment alors? Mais écoutez, il y a un message plus sûr que la croix, protestante ou catholique, ou un crucifix, peu importe, il y a un message plus important que l'habillement, même si l'habillement est nécessaire, mais c'est la vie quotidienne. C'est cette vie que je vis tous les jours. C'est là le message. Et vous savez, le diable, il n'imite pas une vie de chrétien, le diable, il n'arrive pas à l'imiter. Il peut imiter des prières, il peut imiter du jeûne, il peut imiter des rencontres dans des bâtiments. Vous savez, à Londres, vous savez, il y a des athées qui se réunissent tous les dimanches matins pour faire une réunion d'athées. Parce qu'ils disent, ça nous manque. Quand on est athée, on n'a rien le dimanche matin. Ça fait du bien de se retrouver ensemble et puis de chanter des chants athées, tout ça. Et ils ressentent ce besoin, ils disent, c'est un besoin naturel. Vous savez. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. c'est le fait de la vie que je mène. Parce que si je vis comme Christ vit, c'est inimitable. Satan peut tenter les gens à être voleurs, il peut les tenter à être menteurs, il peut les tenter, mais être honnête, aimer tout le monde, être doux, ça il n'arrive pas. Il n'encourage personne. Alors si on l'est, ça vient d'ailleurs. Ça vient de Dieu. Et ça, c'est indiscutable. Il faut vivre de telle manière, c'est comme un peu comme Daniel dans le palais de Nebuchadnezzar. Il dit, ton Dieu, j'y crois pas, mais toi, quand même, il y a quelque chose. Tu vis autrement. Et le moment, Belshazzar, le jour où il a vu la main qui écrivait sur le mur, là, il tremblait comme ça, il dit, oui, Daniel. Daniel, tu peux lire ça? Hein, et Daniel, là, on se reconnaît que Daniel, eh bien, il avait quelque chose. Vous savez, c'est ce témoignage-là que nous voulons. C'est des chrétiens qui ne vivent pas comme des athées, mais qui vivent comme des croyants, qui vivent comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est leur modèle. La femme samaritaine, en Jean chapitre 4, elle a vu Jésus, et puis d'un premier coup, elle a dit, c'est un juif. Mais il a commencé à parler, tout d'un coup, elle a dit, mais... Elle lui dit, comment toi, qui es juif, tu demandes à boire à une femme samaritaine? Mais les juifs, ils ne font pas ça. Normalement, ils sont racistes. Normalement, ils nous haïssent. T'es quoi, toi? Ah, ben, c'est ça, comme ça que nous devons vivre. Peut-être, en apparence, il dit, ouais, ben, ça se voit que tu viens de France. Ça se voit que tu viens du Sud, c'est tout marron. Mais après, en discutant avec nous, il doit voir autre chose. Il doit voir, il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, je croyais que les Français, c'était des gens, pas la religion, rien du tout. Mais toi, il y a quand même quelque chose chez toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'ai pas de religion, mais j'ai Jésus-Christ. Et je vis pour lui. C'est quoi? Qu'est-ce que Eh bien, écoutez, je t'explique. Et puis, c'est autre chose, ça. C'est l'expérience de la femme samaritaine. Et au bout de quelques heures, là, de discussion avec Jésus, tout d'un coup, elle est rentrée au village, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Si elle a pu parler de cette manière-là, c'est parce qu'elle avait obtenu le pardon. Parce que tant qu'une chose n'est pas réglée, on ne peut pas en parler. Mais une fois que c'est réglé, que c'est pardonné, après, on n'a pas honte de parler parce que c'est pardonné. Et les hommes, ils ont vu ce changement chez elle, ils sont venus voir. Puis à la fin, ils ont dit, mais nous avons cru à cause de sa parole. Oui, les deux fils ne niaient pas l'existence de leur père. Chacun avait dit, l'un dit, je veux pas, l'autre, il a dit, je veux bien. La différence, c'était, est-ce qu'ils ont fait la volonté du père? Jésus a dit, concernant lui-même, en Jean chapitre 4, verset 34, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est une relation fils-père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il m'envoie dans sa vigne, je vais dans la vigne. Il m'envoie sur terre, je vais sur terre. Il m'envoie vivre parmi les pécheurs, je vais vivre parmi les pécheurs. Il m'envoie sur une croix, je vais sur une croix. C'est là notre modèle. Parce que c'est une relation. Et vous savez, c'est extraordinaire d'avoir une relation avec le Père, de pouvoir même dire « mon Père céleste ». Tout le monde ne peut pas le dire. Jésus dira « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous savez à quel moment il a dit ça? Juste après, pour illustrer la chose, c'est là où il raconte la parabole des deux maisons. Il dit, il y en a un qui a bâti sa maison, il a creusé, et puis il a posé le fondement sur un roc. Et il a bâti la maison dessus, et puis quand est arrivé l'orage, et la pluie, et l'inondation, et tout ça, la maison n'a pas bougé. Il a dit à un autre, puis eh ben, il a dit, c'est fatigant ça, de creuser jusqu'à sur le roc, tout ça. Moi je vais mettre ça sur la plage, près de la mer. Il a mis ça sur le bord de l'eau et puis il a construit une belle maison. Et comme il n'a pas fait de frais sur les fondations, il n'avait plus à mettre dans la maison, donc elle était certainement plus belle. Mais le jour de l'orage et tout ça, le sable est parti et la maison avec. Et Jésus a dit, la différence, tous les deux ont entendu la parole. Mais le premier, c'est celui qui a mis en pratique la parole. Et le deuxième, c'est celui qui n'a fait qu'écouter. Donc ce n'est pas une question de, oui, j'aime la parole de Dieu, oh, je peux l'écouter, j'ai un enregistrement sur mon téléphone, et j'écoute la parole de Dieu jusqu'à ce que je m'endors. Oh, je suis bon chrétien. Non, non, alors. Il dit, c'est, est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets en pratique? Sinon, là, tu dors là ce soir. Mais le jour où tu as un coup dur, tu diras, il est dit où, Dieu? Je n'entends plus, je ne le vois plus, je n'arrive pas à le trouver. Il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Il dit, ça ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Oui, Seigneur, Alléluia, Seigneur, oui, Seigneur. Et puis je chante « Seigneur » et je chante « Alléluia ». Et je suis. C'est facile, n'importe qui peut le faire. Même des perroquets peuvent le faire. Mais de mettre en pratique la volonté de Dieu, alors là, vous n'avez pas trouvé un singe pour le faire. Il n'y a que l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Quelle est la volonté du Père, rapidement? Bien, je vais vous lire juste quelques versets. Galates 5, 25 nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Si tu prétends avoir reçu la vie par l'Esprit de Dieu, la naissance, c'est ce qui naît de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dit, si vous prétendez vivre par l'Esprit, alors marchez selon l'Esprit. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Jean 15, verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est facile à dire quand tout le monde est gentil, tout le monde est beau et puis tout le monde dit merci. Mais il dit, mais vous savez, Dieu, il a commencé à aimer quand on ne lui parlait même pas, quand on ne le cherchait même pas. N'importe qui, Jésus le dira, mais vous savez, mais même chez les voleurs, il se dit, mon frère. Et les criminels se disent, écoute, je t'aime bien. Il dit, ça c'est facile avec les collègues. Mais va-je trouver quelqu'un qui aime son ennemi? Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis il dira, même au chapitre 13, 35, il dit, mais c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous savez ce que ça veut dire, être un témoin? Ça veut dire, quand on nous regarde, ça nous fait penser à quelque chose. Ça représente quelque chose. Quand quelqu'un me voit, il pense à Dieu. Quand quelqu'un me voit, il pense à Jésus. Quand quelqu'un me voit, il me dit, ah, ça me fait penser à l'Église. Ça me fait penser, alors je dois lire ma Bible. C'est ça être un témoin. C'est pas parler dans des langues qu'on ne comprend pas, c'est pas se jeter par terre, c'est pas tomber par terre, c'est pas courir, c'est pas... Non, non. C'est que quand quelqu'un me regarde ma vie, il dit, je vois Dieu à l'œuvre là. Ça, c'est un témoin. Parce que c'est une preuve de quelque chose. Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et pas n'importe lesquelles, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Il dit, nous avons été créés pour accomplir une tâche que lui a déjà décidée. Le potier, il prend l'argile, il forme un pot. Et dit, j'ai fait un pot pour porter de l'eau, pour maintenir l'eau fraîche. Avant, on n'avait pas des glaçons et tout ça. Hein. Je me rappelle l'époque, et on avait des pots qui on mettait l'eau, elle restait fraîche toute la journée. Ben, il ne faut pas en faire une marmite de cuisson. C'est pas fait pour ça. Il dit, Dieu, pour chacun de nous, nous a donné une fonction dans son service, un rôle à remplir. Maintenant, il ne faut pas lui dire, mais moi, je n'aime pas faire ça, moi, je préfère faire autre chose. Le fils, il dit, papa, non, je ne vais pas dans le champ, mais j'irai au café, et pendant que je suis là, je leur dirai à tout le monde combien tu es gentil. Il dit, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux que tu ailles travailler dans le champ. Parce qu'après, les gens passent, ils voient mon fils travailler dans le champ, ils disent, ah ben ça, ah là, là, le père, il a des enfants qui sont vraiment, qui l'aiment bien. Ça, c'est autre chose que d'aller dans le café et raconter, parler de son amour pour le père, alors qu'on vient de désobéir. Et 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, ne vous comportez pas comme des athées, mais vous devez vous comporter comme des croyants. Les gens, ils nous rencontrent et puis après un certain temps, ils disent, ah. Après vous lui dites, moi je suis croyant, je vais à l'église. Il dit, ah, mais je me disais, il y avait bien quelque chose chez vous, parce que tu n'es pas pareil que les autres. Si je vis autrement, sinon, il y en a d'autres. Il dit, moi je vais à l'église. Il dit, non, ça va, toi tu vas à l'église. Et moi aussi, je vais. La vie qu'il a vue toute la semaine, ça ne correspond pas avec le fait de, je voudrais être libre de repos dimanche parce que je vais à l'église. Il dit, non, mais ça ne va pas. Tu racontes n'importe quoi. Il n'est pas crédible. Tandis que si je vis d'une certaine manière, il dit, oh, bah, d'accord, je comprends pourquoi tu es comme tu es. Parce que tu vas à l'église. Parce que tu crois. Et tu pratiques ta vie. Jean 3, versets 1 à 3, nous dit, « Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. » Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il dit, tu crois que Jésus va revenir? Alors il faudrait que ça se voit dans ta vie. Vous venez chez nous et puis... On vous dit, ah, on a les enfants qui arrivent, toute la famille, les petits-enfants, les enfants qui arrivent là et tout ça. Et puis vous regardez autour de la maison et vous voyez, tout est en chantier, pour ne pas dire autrement. Vous dites, ils arrivent quand? Ben là, tout à l'heure, dans 5 minutes là. Hein? Je me rappelle une fois, ma femme n'est pas là, mais bon, je l'aurais raconté quand même. Mais on venait d'avoir une classe d'enfants. Et la maison, elle était, la classe, et puis les papiers, il y avait tout, et on venait voir. Et on avait invité un couple. Et l'homme nous connaissait bien, mais il amène sa femme pour la première fois, c'est un pasteur et sa femme, et sa femme n'était jamais venue. Elle arrive, et puis je vois qu'elle regarde et je devine ce qu'elle pense. Et moi, comme j'aime plaisanter de temps en temps, hein, vous avez peut-être remarqué, Je dis à l'homme, je dis, c'est aujourd'hui que vous deviez venir. Alors, elle qui ne me connaît pas, tout d'un coup dit, ah chérie, on va au restaurant et on revient tout à l'heure. Là. Le mari, il rit, il comprend, mais elle ne comprend pas tout de suite. Et elle dit, non, bah, écoute, ils sont pas... Et bien, elle voit, la preuve, c'est qu'on ne les attend pas à la maison. Et ma femme dit, non, asseyez-vous. Moi, je plaisante, mais bon, les gens croient ma femme. Vous comprenez pourquoi? Et alors, elle leur dit, non, asseyez-vous, ça ira. Puis, et vous savez comment elle fait des miracles comme ça, elle fait sortir du... comme Dieu a fait pour la création du monde. Et à partir du tohu-bohu, eh ben, il a fait sortir une belle création. Et elle fait ça tout le temps. Et puis, on a eu un bon moment, on mangeait ensemble. Et puis après, il y avait l'étude après. Et tout s'est bien passé. Mais vous savez, c'est vrai que quand quelqu'un vous dit « Oui, oui, le Seigneur il pourrait venir à n'importe quel moment. » Il dit « Et tu vis comme ça ?»« Non, mais tu n'es pas sérieux. Tu crois vraiment ?» Et il dit « Si vous croyez vraiment au retour de Christ, eh bien, ça devrait changer votre mode de vie de chaque semaine, chaque jour. » Donc, en conclusion, ce n'est pas ce que nous avons promis dans la prière, ou au jour de notre baptême, ou un jour où on était vraiment emporté par l'amour du Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est ce que je vis tous les jours qui importe. Et Jésus peut même demander à des gens inconvertis, il dit « Qu'est-ce que vous pensez ?» Il dit « Non, non, bah, c'est celui qui obéit, hein, c'est celui qui fait la volonté, hein, c'est celui qui a été. Hein. » Eux, ils le savent, on n'a pas besoin d'être un ange descendu du ciel pour comprendre ça. C'est compris, tout le monde comprend cela. C'est que si vraiment je crois, eh bien je dois vivre autrement. Et personnellement, si quelqu'un ne vit pas de manière d'un croyant selon le modèle de Christ, j'ai toutes les raisons et j'ai tous les droits de douter de son salut. Je dis, mais il raconte n'importe quoi. Je connais les gens qui vont à l'église. Parce que si, il dit, vous connaîtrez l'arbre à son fruit. On ne peut pas, mais on goûte le fruit. Et on sait que si c'est des cerises sauvages ou si c'est un arbre de cerisier greffé, ça se goûte très vite. On ne réfléchit pas longtemps. Et c'est pareil pour des enfants de Dieu. Est-ce qu'ils ont été greffés sur l'arbre de vie ou est-ce qu'ils sont encore à l'état sauvage ? Et c'est une autre chose. Oh, les fleurs sont belles. Même les fleurs du cerisier sauvage sont plus belles que celles du cultivé. Ah oui, mais les cerises ne sont pas les mêmes. Et quel est le fruit que Dieu cueille dans votre vie ? Est-ce que vous êtes un athée qui devient croyant ? Ou est-ce que vous allez être un croyant qui se comporte comme un athée ? Que Dieu nous aide. Prenons quelques moments de silence et de réflexion et que chacun prie devant le Seigneur.